La question de la violence en Amérique centrale et notamment dans les trois pays sur lesquels nous avons issu notre rapport, le Salvador, le Honduras et le Guatemala, elle est le résultat de deux process. D'un côté, la question des gangs, hein, les maras, qui sont le résultat de la pauvreté et de la violence endémique qui force quelque part les jeunes à venir les rejoindre et à mettre en sorte d'esclavage sexuel les jeunes filles en devenant leurs fiancées, en extorquant de l'argent. Mais c'est vrai que c'est un système extrêmement violent. Mais face à ça, il y a des autorités, notamment des autorités judiciaires et la police, qui sont d'une extrême violence par rapport à la population, dans une totale impunité. Et on constate à travers les témoignages que nous avons reçus que non seulement elles n'apportent pas de protection aux personnes qui en font la demande parce qu'elles sont menacées justement par les gangs, mais en plus, elles vont arrêter des personnes, les torturer pour leur extorquer des aveux et ainsi faire croire que finalement, elles veillent à la sécurité, ce qui n'est absolument pas le cas.
Mais alors, comment expliquer cette technique finalement? Est-ce que la police n'a pas les moyens? Est-ce que c'est un manque de volonté?
Ce que l'on constate dans de nombreux pays aujourd'hui, où notamment les arrestations arbitraires et la torture sont utilisées, c'est que face au manque de moyens, de formation, à l'incapacité des forces de police ou au manque de soutien qu'elles peuvent avoir pour mener leur travail, eh bien, elles font croire à la population, en tout cas, elles essayent de se justifier en arrêtant des personnes. Il ne faut pas non plus négliger la question de la corruption, la question de l'implication aussi de ces personnes qui eux-mêmes ont une famille et le fait que par le passé, sous des régimes militaires ou des régimes très durs, eh bien, la torture était utilisée de façon assez significative et il n'y a jamais eu en fait de poursuite. On est dans un système d'impunité par rapport à de telles méthodes.
Parmi les premières victimes, il y a les jeunes qui sont des victimes à la fois directes et puis des effets indirects avec une déscolarisation qui est assez massive.
Ce que l'on constate, c'est que poussé par la violence, par le coût aussi que peuvent avoir les études et l'insécurité généralisée, bien notamment au Salvador, on a constaté en 2015 qu'il y aurait, les chiffres sont de 39 000 étudiants qui auront abandonné, qui seraient sortis du système scolaire par peur. Et même si on pense que ça pourrait être presque trois fois plus important. Et là, on voit que d'une part, la violence vraiment s'infiltrait dans toutes les strates de la société, mais en plus qu'elle va avoir un impact sur l'avenir des jeunes s'ils ne peuvent même plus aller à l'école.
Alors, ce que vous pointez également dans le rapport, c'est au-delà de cette violence, c'est le manque de protection des personnes qui ont fui et qui reviennent. Quand ces personnes sont renvoyées dans leur pays, eh bien, elles ne bénéficient pas d'une protection assez efficace.
Du fait de cette violence, il y a des centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui fuient l'Amérique centrale pour trouver refuge dans d'autres pays de la région et notamment aux États-Unis, au Mexique. Ce que l'on a constaté ces dernières années, c'est une augmentation considérable des départs vers ces pays, mais surtout que les renvois qui sont faits malgré les demandes d'asile eh bien, sont également très importantes. Et ce qui est très préoccupant, c'est que ces personnes, pour beaucoup, sont renvoyées vers la mort. On a interviewé d'ailleurs dans notre rapport notamment un monsieur qui était chauffeur d'autobus et qui a été renvoyé depuis les États-Unis alors qu'il a été menacé. Et avant la sortie de notre rapport, eh bien, malheureusement, il a été assassiné et aujourd'hui, sa famille se terre. Donc, on voit qu'il y a un réel danger. Pourtant, les personnes sont renvoyées. Et face à ça, les autorités, d'un autre côté, si elles interrogent les personnes quand elles reviennent pour savoir si elles ont subi des violences sur leur trajet, elles ne les interrogent pas du tout par rapport aux raisons qui les ont poussées à quitter leur pays. Et avec ce rapport, ce que nous cherchons à faire, c'est d'une part interpeller les autorités, bien sûr, des États-Unis et du Mexique, pour qu'elles cessent de renvoyer des personnes qui sont en danger de mort et qu'elles leur donnent l'asile comme elles doivent y avoir droit. Et d'autre côté, que les autorités du Salvador, du Honduras et du Guatemala, eux, ne se défaussent pas de leur responsabilité, qui est d'assurer la sécurité de leurs citoyens, ce qu'elles ne font absolument pas aujourd'hui.
Parce que vous l'évoquez, il y a des projets qui sont mis en place. Vous parlez du projet d'Alliance pour la prospérité, de l'argent qui est donné par les États-Unis pour que ces pays accueillent les gens qui sont renvoyés, et de l'autre côté, des centres d'accueil officiels pour les personnes renvoyées qui sont mis en place. Mais ces centres sont inefficaces, c'est ça?
D'une part, on n'a pas obtenu d'informations concrètes des différents États que nous avons interrogés sur l'utilisation qui est faite de l'aide apportée par les États-Unis pour le développement et pour faire que les personnes, justement, ne partent pas. Et donc, on n'a pas d'informations sur ce sujet. Et d'autre part, on voit que les structures qui sont mises en place pour les accueillir à leur retour sont complètement inefficientes. Parce que si on les interroge par rapport à les violations qu'elles auraient subies sur leur trajet, on ne les interroge pas sur les violences qu'elles avaient subies avant de partir et surtout on ne leur apporte pas de protection alors qu'elles en ont besoin.
Ces gangs qui prolifèrent sur l'absence de l'État, sur la pauvreté, finalement c'est aussi un problème plus profond de la société de ces pays.
De fait, le niveau de pauvreté qui a atteint le Guatemala, le Honduras et le Salvador est tel aujourd'hui que les gangs se sont développés. Ce sont vraiment des réseaux criminels d'une extrême violence et qui recrutent des jeunes, qui exercent du racket, qui vraiment minent la société. Et face à cela, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse effectif du gouvernement, mais que ce soit en termes de sécurité, mais aussi en termes de développement. Et ça, c'est très important à souligner, parce qu'on montre bien justement comment la pauvreté, si en plus elle s'accompagne d'un haut niveau de violence, peut conduire les gens à devoir fuir leur pays en quantité et à demander l'asile ailleurs. Et pour nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que finalement, la crise des réfugiés que traverse l'Amérique centrale, c'est peut-être la moins connue aujourd'hui au niveau de ce qui se passe au niveau mondial.